Voilà, vous avez ouvert votre dossier, vos dossiers 02, celui-ci, puisque vous m'entendez, et le PowerPoint qui porte le même titre, Laudato si 02. Et nous allons, après cette première image, qui est le titre de ce premier cours, nous allons voir la seconde, le chapitre 2. Le chapitre 2, le débat avec Genèse 1. Avec trois parties, l'objet du litige, une vision du monde, je ferai là un petit excursus philosophique, j'espère très intéressant, et nous finirons par quelques triades. Cette partie est un petit peu plus longue, la troisième, vous verrez, sera bien plus courte, et peut-être est-elle un petit peu trapue parfois, mais bon, sans inquiétude, n'est-ce pas? Tout d'abord, l'objet du litige. Dans les paragraphes 62 à 75 de son encyclique, le pape fait allusion à une querelle à l'encontre de l'Église qui a sévi dans les années 1950. Cette querelle concernait le récit de création dans le livre de la Genèse. Il y a en effet dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, un verset, le 26, répété en 28. Dieu dit, je cite, Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Plus loin, Dieu les bénit et leur dit, Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Voici l'objet du litige, dominer, soumettre. Voici l'objet du litige sur lequel nombre d'écolos, depuis une quarantaine d'années, fondent pour accuser le christianisme d'avoir, à l'encontre de la nature, délivré aux cultures occidentales une sorte de permis de dominer, permis d'exploiter la terre, et d'avoir placé l'homme au sommet, alors qu'il ne serait qu'un élément d'un fragile équilibre. Le premier à avoir lancé l'idée, et Lynn White, en 1967, vous voyez, c'était quand même assez récent, un universitaire américain spécialiste de l'histoire de la technique. C'est assez curieux, mais il a fait une conférence qui a eu grand succès et qui a fait grand bruit. Des personnalités intellectuelles bien connues, et pas seulement dans les milieux cathos, ont bien sûr répondu. Non, la source de la soumission du monde n'est pas dans le christianisme, mais bon. L'idée, évidemment, a eu grand succès, vous imaginez bien pourquoi. Donc des personnalités ont repris le travail à partir de ces interrogations. Il fallait en effet répondre pour une meilleure lecture de la Bible, mais nous la faisions, nous, depuis belle lurette, hein. Monsieur Wright avait juste un petit peu de retard dans l'exégèse. Mais il fallait surtout réexaminer les choses sur le plan de la philosophie. Il fallait réétudier sur le plan philosophique les sources de l'asservissement du monde. C'est ce que nous verrons au point suivant. Mais maintenant, observons sur le plan biblique. Les réponses sur le plan biblique et dans l'histoire des sciences, ce sont par exemple, j'en cite deux, mais alors là vraiment, vous connaissez probablement cette littérature, mais par exemple Jacques Arnoux, qui répond très bien aux objections des sciences par rapport aux affirmations bibliques, ou encore Jean-Michel Maldamé, qui nous apprend à lire correctement les livres de la Bible en tenant compte des découvertes des sciences contemporaines. Je ne vous expose pas leur démarche, puisque je vais prendre plutôt la pente philosophique, et puis je vais prendre surtout la réponse, pour l'instant, du pape François dans Laudato si. Et cependant, parce que ces réponses sont soit tardives, soit peu reçues du grand public, il faut bien dire que l'idée de M. Lynn White a fait son chemin et a été reçue dans nombre de milieux, à peu près sans débat, sans vérification, c'est très étonnant, hein, et sans réaction d'ailleurs, encore plus étonnant, de la part de l'Église dans son magistère. Pourquoi ce silence du magistère, pourquoi ce silence de la théologie? Pour deux raisons. Dans les années où ces affirmations florissaient, L'Église était peu éveillée à la problématique des relations à la nature. Elle avait perdu sa propre tradition de pensée sur la création, ne voyant celle-ci que dans la nature, laquelle prouvait l'existence de Dieu. C'est à peu près tout ce qu'on lui demandait dans une sorte de profession de foi du vicaire savoyard. En gros, le scout aime la nature et y voit l'œuvre de Dieu. Point terminé. C'est pas mal, mais c'est largement en dessous de la tradition de l'Église. Très riche, pourtant, sur ce point. Nous verrons ça au prochain cours. Ça, c'est la première raison. Voici la seconde raison pour laquelle l'Église est muette. À cette époque, l'Église craignait une sorte de néopanthéisme, eut un culte envers la nature, genre New Age, qui prêchait avec un certain succès ce que l'Église avait déserté, à savoir un rapport harmonieux à la nature et au cosmos. Le New Age propose d'ailleurs davantage un rapport fusionnel, plus qu'harmonieux. Eh bien, l'Église s'en méfiait, parce qu'elle craignait un retour du paganisme. Et si vous voulez, à cause du fait que le New Age se soit emparé de cette question, l'Église n'y a pas été, en se disant « Oh là là, le terrain est miné, le terrain est pollué ». Ça, je pense que c'est un ratage de l'histoire. Toujours est-il donc que la réflexion théologique n'était plus présente sur ces questions de la nature, du cosmos, et des rapports de l'homme à son environnement, et des rapports de l'homme à la création. Reprenons les critiques issues de Leon White. Il est vrai que la tradition chrétienne place l'homme au sommet de la création. Mais non pour en faire ce qu'il veut, ni en disposer selon ses bons plaisirs. Notez ici une étrange perversion de nos adversaires, qui pensent que tout ce qui est au sommet l'est pour asservir, pour exploiter. Bah non. Dans la pensée chrétienne, Olivier Clément déjà le rappelait dans les années 1980, l'homme est au sommet pour répondre de la nature, pour en assumer la garde. On ne peut guère demander au marais de répondre de la qualité de l'air, ni au gibier de garder propre les sources d'eau. À l'homme, on le demande. En cela, il est au sommet. Dieu confie son œuvre de création, il ne l'abandonne pas aux caprices de l'homme. Dire « dominer les choses », ce n'est pas un permis d'exploiter, ni l'autorisation de les réduire à leur utilité, à leur rentabilité. Déjà, saint Thomas d'Aquin précisait « user du monde et ne pas abuser des biens de la nature ». Je crains que dans le projet de faire de l'homme un vivant comme les autres, un animal un peu plus prédateur que les autres, en diminuant la différence de l'homme par rapport à l'animal ou aux autres vivants, on veuille en fait se désengager de toute garde. Et on veut se désengager de toute garde pour trois raisons. Parce que si on est gardien, alors on est méchant. Vous vous souvenez, c'est le premier point que je signalais comme en passant. Et cette étrange perversion de nos adversaires qui pensent que tout ce qui est au sommet l'est pour exploiter. Ouais, si on est gardien, on est donc un méchant, on est un méchant patron, par exemple. Première raison. Deuxièmement, raison pour laquelle on veut se dégager de toute garde, eh bien c'est parce qu'on ne veut plus accepter de responsabilité qui pourrait brider ma liberté toute puissante. Et troisième raison, eh bien c'est parce qu'on se sent perdu, dessaisi, face à la complexité de la gestion du monde, face aux chaînes causales. Et on a en quelque sorte perdu la main. Au total, on préfère dire « nous sommes comme les autres vivants, surtout pas au-dessus, surtout pas responsables ». Moi, je crois que c'est ça la cause principale, vous voyez, de ce refus pyramidal, si j'ose dire. Alors, comment comprendre Genèse chapitre 1 ? Quand on lit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la », c'est donner à l'homme une double responsabilité, en fait. D'abord, il devra dominer les choses, c'est-à-dire en être le maître avant que les choses ne le dominent. Vous voyez, j'ai pris cette image de Sossotte au milieu de son dressing, avec sa collection de godasses, pour montrer à quel point elle est dominée. Elle croit posséder, elle est possédée. Elle est complètement dominée par les choses qu'elle possède. Et donc l'homme, quand on lui dit « tu domineras », on lui dit d'abord « tu ne seras pas dominé », y compris par les choses que tu as créées. Cette vocation n'est donc pas un encouragement à asservir, mais obligation à ne pas être asservi, assujetti, addict, gavé, pourri. Ah, mais ça, évidemment, on ne veut pas. On préfère être un vivant comme les autres et être paisiblement prédateur sans interroger. Donc, première responsabilité, ne soyez pas abruti. Je prends abruti au vrai sens du terme, hein, c'est-à-dire assommé, étourdi. Étourdi par le consumérisme, par les saturations de plaisir, par le bruit du surmenage, etc. Voilà, c'est ça que ça veut dire, tu domineras. Tu ne seras pas soumis. Seconde responsabilité, l'homme devra sauvegarder. Garder au sens heideggerien, nous y reviendrons, de ménager, au sens de gardien du jardin d'Éden. Dominer la terre ne veut pas dire l'organiser pour qu'elle soit exploitée à fond par nos avidités. Ça veut dire prendre soin. La terre peut beaucoup, elle est généreuse. Elle nous demande, en quelque sorte, de l'aider à donner. Notre travail consiste à libérer sa puissance fécondante et nourricière, pas à l'user. C'est ça, prendre soin. Voilà, c'est ça, quand dans Genèse, on entend « soumettez la terre, dominez-la ». C'est donc précisément le contraire de ce dont on nous accuse. Mais alors, d'où vient le bug? Bah d'abord d'une lecture idiote de nos adversaires, qui sont pourtant des intellectuels, des universitaires, et qui donc devraient avoir un minimum fait d'exégèse. Ce qu'ils acceptent de faire pour les livres de Platon, ce qu'ils n'ont pas fait pour les livres de la Bible, c'est quand même étonnant. Mais il y a un autre bug, une autre source. Comment se fait-il qu'en effet l'Occident, avec la bénédiction de l'Église, se soit mis à piller et à souiller la terre? Ben, il y a deux choses. Il vient de la pensée de la modernité, la technophilosophie du XVIIe, XVIIIe siècle, et non pas du soi-disant permis d'exploiter biblique. Nous allons voir ça maintenant. Et il vient, il faut bien l'avouer, de l'abandon de la question par l'Église. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la crise du New Age. Donc, avançons et allons voir comment la modernité a pollué, en quelque sorte, notre rapport au monde. Je vous propose six visions du monde en amont des questions d'écologie. Les questions d'écologie, qui sont les grandes questions d'éthique de notre époque, interroge notre anthropologie, nos façons de vivre, notre idée du cosmos, notre idée du prochain, et même, elle réforme notre idée de la matière. Il s'agit, en fait, de changer vraiment notre rapport au monde, notre considération. Il s'agit de changer notre cosmologie, c'est-à-dire ce que nous disons du monde, ce que nous pensons du monde. Et donc, je vous propose un petit parcours dans l'histoire de la pensée en six périodes. Quand je dis six périodes, attention, ça n'a rien de chronologique, rien de hegelien non plus, c'est-à-dire avec une classification du plus rustique au plus rationnel, au plus animé d'esprit, posture qui place celui qui pense ça au sommet du progrès, hein, bien sûr. C'est la raison pourquoi Hegel a eu tant de succès. C'est le dernier qui parle qu'à raison, si le progrès est constant. Ce parcours donc n'a rien à voir avec cette idée de progrès. Je ne vais pas vous présenter en première vision la plus rustique, la plus bête à sonne, et en sixième la plus sophistiquée. Ce parcours n'a rien non plus de réac, c'est-à-dire qui rêvasse d'une période révolue, autant que fantasmée, où tout était mieux. Tout ça, c'est bête. Quand vous entendez ça autour de vous, fuyez. Non, le monde d'avant n'était pas meilleur. Donc, ce que je vous propose, ce sont six univers mentaux, comme on dit, c'est-à-dire six paradigmes, des manières de penser. Ce que j'appelle des périodes, mais vous comprenez bien que ce n'est pas des périodes qui sont ordonnées chronologiquement les unes aux autres. Donc c'est ainsi, par exemple, que vous pouvez très bien vous retrouver dans tel ou tel paradigme, un ou deux ou trois, vous voyez, sans aucune idée de progrès. Alors allons-y. La première idée, elle nous vient dans le monde grec, l'idée que l'on se fait du monde induit l'idée que l'homme se fait de lui-même. Disons, pour faire simple, que le dualisme prédomine sous sa forme platonicienne. Ce qui est bien sûr, ce que je vais vous dire est bien sûr un raccourci très rapide, mais bon, il faut bien tenter la pédagogie. Il faut y insister parce que le monde chrétien, et donc le monde européen, et donc l'économie mondiale, en est tributaire. Pour Platon, le monde vrai, c'est le monde des idées, ce qu'il appelle les idées pures. Ce sont presque des divinités. Le monde que nous disons réel est en fait un magma de matière chaotique, plus ou moins bien ordonnée, il dira informé, par l'idée. Mais l'idée, qui informe la matière, quand elle descend dans la matière pour l'ordonner, s'y abîme. Elle se perd en quelque sorte. Elle perd de son idéalité, de sa pureté d'idée, de sa vérité, de cette plénitude. La matière est donc une sorte de piège, de prison, de déchéance pour l'idée, seule chose vraie. La matière est donc perçue comme trompeuse. Plus vous êtes dans la matière, engoncé en elle, moins vous participez à la vérité. Il y a donc là une sorte de mépris, de méfiance en tout cas, pour la matière. Notez bien, au passage, que pour asservir quelqu'un, il faut d'abord le mépriser. D'emblée, c'est ce que nous avons fait avec la matière du monde. La cité grecque, elle-même, reproduit cette image. Elle est en effet une sorte d'îlot de cosmos, c'est-à-dire d'ordre, hein, d'ordre ordonné par les idées, un îlot de cosmos dans un monde chaotique. L'environnement est chaotique. C'est le lieu, la ville, où peut régner l'esprit et s'ordonner la cité. Et au loin, c'est le chaos. D'où viendra l'ennemi, le désordre. Voilà ce qu'est la cité grecque. Un point très intéressant et positif dans cette vision, c'est que le chaos n'est pas dans le lointain passé. Il est toujours là. Il est même, on pourrait le dire, hein, sous nos pieds. Vivre au monde consiste donc à maintenir, à garder le cosmos et nos propres comportements y contribuent, ce que les Grecs appellent la phronesis, la tempérance. Il s'agit de garder l'ordre. Seconde idée à garder, si le chaos est une sorte de perte de l'ordre du vivant, il est aussi réserve de pulsion, de force, d'énergie. Il est magmatique, il est désordonné, mais il est puissant. De lui viennent sourdre toutes les motions, tous les soulèvements, toute forme de puissance. Mais c'est très intéressant le monde grec, hein, parce qu'il parle d'une manière quasi poétique, quasi imagée, de réalité que nous pouvons traduire dans des termes plus sophistiqués, mais tout est là. Et habiter le monde consiste ici d'abord à s'en défendre. Deuxième période, deuxième paradigme, vous avez une photo, enfin pas une photo, hein, une reconstitution d'une ville romaine avec le Cardo et le Decumanus. Nous sommes dans le monde romain. Le monde romain, pourtant largement héritier de la Grèce, n'a pas la même idée du tout, ni du monde, ni de la cité, ni de l'homme. La cité est le foyer d'un rayonnement. Il est l'image de l'ordre céleste, l'ordre cosmique, Le cardo et le decumanus posent au sol, autour du forum et des institutions, les axes du monde. Axe du monde céleste, axe du monde romain, axe du monde qu'on contemple, axe du monde qu'on impose. Et la voie romaine est le prolongement sur tout le bassin méditerranéen de cet ordre tenu par Rome, par la cité idéale. La cité, c'est-à-dire la loi et son bras armé, les légions, mettent en ordre le monde. Vous voyez, il y a une différence entre la culture grecque et la culture romaine. Notre culture de la mobilité et de l'administration hérite de cette manière toute romaine de maîtriser le monde. Cette vision du monde, bien qu'ayant d'abord installé la croissance commerciale, puis fait le lit des totalitarismes, responsabilise, ou au moins donne conscience d'un monde à administrer, d'un monde relié. Rome le savait, vous savez. Quand il construisait le mur d'Adrien, il savait qu'à l'autre bout de l'Empire, c'était important. Là, pour le coup, vraiment, tout était lié. Troisième vision, vous voyez que je vais très vite. Notre troisième vision du monde, notre troisième univers mental, si vous voulez, c'est celle des harmonies générales ou du pancalisme, c'est-à-dire la beauté du tout. Ce sont les périodes carolingiennes et médiévales où l'on croyait que tout dans le monde était mu, animé, par les mêmes règles. C'est ça le pancalisme. Tout est beau, tout est harmonieux, parce que tout sous les mêmes règles, les mêmes proportions. Tout, c'est-à-dire les orbes, les cercles célestes, lunaison, zodiaque, calendrier, les saisons végétales, mais aussi les proportions architecturales qui répondent donc aux mêmes règles que les écliptiques, le zodiaque, etc. Les humeurs du corps humain et même les règles musicales. Tout répond aux mêmes lois. Tout répond aux mêmes harmoniques. C'est tout à fait extraordinaire hein, comme pensée. C'est pour ça qu'on a dit que c'était le pancalisme, le tout sous la règle harmonieuse. Cette théorie fait un retour évident depuis une trentaine d'années, après la vague New Age et son essoufflement. Le monde chrétien, hélas, à l'origine de cette pensée du pancalisme, est presque totalement absent de ce retour. Pas tout à fait complètement, mais quasi. Placé dans une posture de défense et de mésestime du monde et de ses modes, nous croyons, nous réputons ces mouvements païens. Comme si le paganisme n'était pas la façon dont Dieu préparait le monde, comme s'il n'y avait pas de génie dans le paganisme, comme si tout ce qui nous précédait relevait du nocif et de l'obscurantisme. Pendant que nous errons dans ces tentations de la pureté, les modes bon chic bon genre se saisissent de ce que nous avons abandonné. Et qui pourtant était notre tradition, à savoir le pancalisme, la quête de l'harmonie avec toute chose, le corps, la musique, le monde, les humeurs internes, les humeurs externes, l'ensoleillement, les écliptiques, les lunaisons, etc. Tout ce qui advient dans ces discours de bien-être, ces centres de remise en forme, ces coachings d'écoute de soi, ces stages de communion avec la nature, ces centres de jeûne, nous l'avions dans notre tradition, ce dont nous parlerons dans le cours prochain. Évidemment, il y a beaucoup de surestime de soi, hein, faut bien reconnaître, surestime du petit moi obsédé dans ces pratiques à la mode et ces croyances très branchées. Raison de plus pour y être. Le christianisme peut apporter une guérison de cela aussi. Surtout, parce que c'est notre tradition. Et c'est pas faux, et c'est pas idiot, c'est pas bêtasson, ces croyances, je sais pas dire, périreligieuses, vous voyez, autour du religieux. C'est pas idiot. Mais nous l'avions intégré dans notre tradition catholique, et nous l'avons quelque peu oublié. Hildegard von Bingen, hein, faite docteur de l'Église, par Benoît XVI, est un de nos repères sûrs dans cette tradition d'estime de la Terre et de quête des harmonies générales. Oui, donc ne manquez pas notre prochain épisode, le quatrième cours, j'en reparlerai. C'était la troisième période, voici maintenant la quatrième. Il faut quand même rappeler que la matière a perdu quelque chose de sa vérité quand elle est devenue matériau. Vous voyez, la nuance compte. C'est avec la modernité, c'est-à-dire le XVIIe, XVIIIe, XVIIIe, qu'apparaît une sorte de face-à-face, puis un surplomb de l'homme qui pense par rapport au monde. Nous faisons face au monde, nous le considérons, nous le mesurons, nous le calculons. Notre regard, notre science décrète des réalités. C'est une époque, disons XVIe, XVIIIe, où nous découvrons dans l'enthousiasme généralisé les règles du monde physique. Et nous passons d'un monde clos à un univers infini, celui du système solaire, le moment galiléen, hein, comme on dit, mais également celui du système solaire, bien sûr, qui nous fait sortir du monde clos vers l'univers infini, mais également celui des cultures, hein, la découverte d'autres peuples. Donc vous voyez quelle période enthousiasmante, hein. Faisant face au monde, le calculant, le prévoyant, lentement, nous nous en sommes détachés. Nous n'en sommes plus. Nous sommes au-dessus. Nous n'habitons plus, nous exploitons. Galilée, vous vous en rappelez, a défait un système de pensée où la Terre était au centre de tout, et l'homme au centre de ce monde. Que tout ne tournait pas autour de nous, ça a été une révolution considérable, lente à avaler, mais considérable, tant sur le plan religieux que scientifique. Eh bien, je crois que nous nous sommes empressés de restaurer ce que la science venait d'ébranler. L'homme devait rester au centre de tout. Ce n'est plus l'homme religieux au sommet de l'œuvre de création, mais pire, c'est le sujet pensant, le sujet surplombant, devenu omniscient, il sait tout, il a les sciences exactes de la mesure physique, et il espère bientôt tout comprendre, et bien plus vite, il espère tout mettre à sa disposition. Voilà comment je caractérise, voyez, cette espèce de gangrène ou de dégâts collatéraux de la modernité. Et le monde, la matière, la terre sont devenus des stocks de matériaux. De même, je le crains, les autres humains. Cinquième période, je vais évoquer, vous voyez que ce n'est pas une période, c'est un paradigme. Je vais évoquer maintenant l'animisme. Vous voyez à quel point ce ne sont pas des périodes historiques, mais des univers mentaux. Honorer l'animisme, étrange idée pour le prêtre catholique que je suis, me direz-vous. Mais je m'appuie sur les études de Philippe d'Escola pour estimer que la Terre a beaucoup perdu quand ont été éradiquées ses pratiques et ses perceptions ancestrales. Éradication certainement due aux effets conjugués de la lutte du christianisme contre tout ce qui n'était pas lui, ce que j'appelle la tentation de la pureté, et la prétention surplombante de la modernité dont je viens de parler. Or, les trois quarts de notre humanité fut animiste, et beaucoup le reste. De quoi s'agit-il ? Dans l'animisme, chamanisme, totémisme. Il s'agit de penser les vivants comme nos proches, nos compagnons, pas nos égaux, mais nos compagnons. Attention à ne pas confondre animisme, fétichisme et magie. Le fétichisme, c'est l'idée que les choses ont un pouvoir. La magie, que j'ai moi, qui en connais le secret et le langage, j'ai pouvoir sur les choses. L'animisme, ce n'est pas ça. C'est savoir que je ne suis pas seul, Les autres vivants sont là et comme moi doivent être là. C'est un respect qui appelle une sorte de morale communicationnelle. Eux et moi, nous devons nous entendre. Que les vivants soient nos compagnons, évidence aujourd'hui imposée par les questions d'écologie. Mais l'animisme le savait depuis belle lurette. Tous les vivants sont interdépendants. L'autonomie est une mauvaise farce qui a été gangrénée par Jean-Paul Sartre. Le surplomb utilitariste de la modernité est un abus, peut-être un délit, bientôt un crime. L'animisme prête aux choses un esprit, c'est-à-dire refuse de les réduire à notre esprit. Habiter consiste alors à cohabiter, à s'estimer mutuellement. La perte de cette croyance ou éthique, la perte de cette croyance a dégradé le monde, dans tous les sens du terme. Sixième période, sixième univers mental, dernier modèle de perception du monde, est celui qui constitue une véritable enveloppe de notre époque, c'est le monde des flux. Cette fois, c'est à Hartmut Rosa et à Sigmund Baumann qu'on peut se référer pour parler de cette culture du mouvement, de l'accélération, de l'affairement. Ce que Rosa voit comme la grande aliénation de notre temps. Qu'on s'en plaigne ou non, c'est, semble-t-il, notre lot, la loi de nos communications, celle de la circulation des biens, la mobilité dans le travail, les changements de métier au cours d'une même vie, fluidité des identités sexuelles, des formes familiales, des regroupements amicaux, déménagement, consommation jetable, versatilité des opinions, etc. C'est ça la fluidité. Et c'est probablement cette idéologie qui vient de prendre un coup de vieux avec la crise du Covid-19. Enfin, c'est en tout cas vraiment ce que j'espère. Cette vision consiste à voir autour de notre monde comme une résille, une sorte d'exomaille, où ceux qui nous gouvernent et gouvernent le monde semblent autant tout-puissants qu'immaîtrisables et de plus en plus étrangers, indifférents au monde vécu. Et ce sont les flux, le monde fluide. Que pouvons-nous faire ? Que nous est-il permis d'espérer ? Et au fond, qu'est-ce alors que l'homme ? Toutes ces questions kantiennes reviennent maintenant avec force. Voir la mobilité comme une bonne chose, après tout, les chrétiens peuvent bien en convenir. Eux qui sont, ou devraient être, animés par l'adage « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je rappelle, est-ce nécessaire que cette parole n'est pas un adage, mais bien un enseignement du Christ, en Jean 14, 16. Voir l'adaptabilité comme une qualité réaliste, d'accord aussi. Encore qu'il faille tout autant maintenir la résistance et s'entraîner à la solidité des convictions, des enracinements et à la pérennité des résolutions. Mais il reste, à mon avis, que l'habilité, la mobilité, la fluidité conduit quand même au désespoir de l'impuissance et le nomadisme conduit à la prédation généralisée. Chacune de ces visions que je viens d'exposer brièvement, ou leur combinaison, implique un comportement très différent à l'égard du monde, de la Terre, devons-nous dire plutôt à l'encontre de la Terre. En tout cas, notre conversion écologique doit remonter jusqu'à ces idées générales qui sont aussi des comportements de fond. J'en ai fini avec ces six périodes. Vous voyez, vous pouvez prendre le temps de réécouter ça, hein, parce que j'ai évidemment le sentiment que c'est, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces raisonnements philosophiques, c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je viens de dire. Je voudrais maintenant, vous voyez le plan à nouveau, je voudrais maintenant parler de quelques triades donner à nouveau matière à penser, matière à penser notre rapport au monde par l'examen des triades, des trilogies traditionnelles dont nous équipons notre idée de l'homme. C'est très classique, vous voyez, de voir les choses en trois. Alors, il y a une triade traditionnelle, hein. C'est non pas le corps et l'âme, ça c'est pas une triade, c'est une dualité, elle est platonicienne, elle n'est pas chrétienne, mais il y a une triade traditionnelle, chrétienne, corps, âme, esprit. Cette manière de penser l'homme est très précieuse, mais là aussi, c'est très inattendu, le pape François fait un écart. Pour sortir du dualisme corps-âme ou matière-esprit, une triade a été proposée, notamment par Saint Paul, corps, âme et pensée ou esprit. Philosophiquement, c'est bien plus intéressant, et les chrétiens y ont discerné en quoi l'homme est à l'image de Dieu. Il porte en lui cette image de la Trinité par le fait qu'il est corps, âme, esprit, ou encore, avec Augustin, mémoire, intelligence, volonté. Et pourquoi fallait-il sortir de ce dualisme? Ben pour quitter Platon et redonner à la matière son statut de créature, la matière. C'est-à-dire que la terre n'est pas un lieu de perte, mais un monde voulu. Et le fait que le créateur l'ait voulu la revêt de la dignité du téléologique, c'est-à-dire de la destinée, de la vocation, de la raison d'être. La terre, elle aussi, la matière, elle aussi, est destinée. Nous avons dans le bréviaire une homélie du second siècle qui disait ceci: cette chair est l'image de l'esprit. Rendez-vous compte. Je reprends. Cette chair est l'image de l'esprit. Nul ne peut, après avoir gâché l'image, participer au modèle. Voilà ce que cela signifie, mes frères, garder la chair pour participer à l'esprit. Le croyez-vous, ce texte est du second siècle. Vous voyez, c'est pas du 21e siècle. Garder le corps, estimer la matière, garder la chair pour participer à l'esprit. Ayez de l'estime pour la matière, l'esprit viendra. Et le Moyen-Âge, thomiste disait, il n'y a pas d'âme sans corps. Vous voyez que, voilà la tradition de la pensée ecclésiale. Il n'y a pas un bel esprit d'un côté et une mauvaise matière de l'autre. Il n'y a pas d'âme sans corps. La corporité n'est pas un piège pour la pensée. Bien plus de perversions sortent de l'esprit humain que de sa sensualité. Il fallait donc renoncer à ce dualisme. Bien. Il le faut, d'autant plus qu'une triade dit bien mieux la complexité du réel qu'une dualité, décidément trop simpliste. Qu'est-ce qui est destiné à la vie éternelle? Qu'est-ce qui est porteur de mystère et d'insaisissabilité? Nos corps? Notre esprit? On a longtemps répondu en disant ben c'est l'âme. On a aussi préféré une triade parce que trois, c'est le début du complexe, c'est-à-dire le début de la vérité. Complexe pour complexe, constatons que ce qui fait notre personne singulière n'est ni deux ni trois, mais une extraordinaire combinaison de tout un tas de données, vous voyez, données au sens fort, hein, qui nous font notre famille, notre métier, nos succès, nos échecs, le pays dans lequel nous sommes nés, la langue maternelle, la culture qui a façonné nos habitudes mentales, notre corps, bien sûr, nos sensations, ses souffrances, ses jouissances, tout ça nous a fait. Et vous voyez, ce composé multiple et extraordinairement complexe fait la personne humaine. Mais aussi, il faudrait ajouter nos amis qui nous ont fait, ceux à qui nous devons tant, les émotions qui nous ont pénétrés, les moments de beauté, etc. Et c'est ça la personne humaine. Le dualisme, décidément, ne peut pas rendre compte de cela.